Soft. Pas des rétro ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Attends, je t'explique, c'est la chronique qui nous apprend des trucs pour aller bien dans la tête. La neuronutrition, c'est quoi? J'ai ici au studio pour l'occasion Nadège Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et thérapeute. Donc la question de cette chronique, elle est super simple. Pour vous, la neuronutrition, c'est quoi?
Alors, si on décortique le mot, neuro, donc ça vient de neurone, donc on pense tout de suite aux cellules du cerveau, et nutrition, ça vient de nourrir, donc nourrir les cellules du cerveau. Donc, c'est une discipline, en fait, de la nutrition qui nous permet de comprendre l'impact des aliments sur la santé du cerveau, c'est-à-dire sur les fonctions cognitives, la mémoire, la concentration, les capacités d'apprentissage, mais aussi les troubles de l'humeur et l'énergie de manière générale.
Parce qu'il y a des aliments qui, je ne sais pas, vraiment j'y connais rien du tout au niveau des vitamines ou des minéraux qui sont plus importants pour le cerveau, c'est ça?
Alors oui, tout à fait, et même les macronutriments, en fait, quand on parle des macronutriments, on parle déjà des protéines, des lipides, des glucides, avant de parler des micronutriments qui contiennent des vitamines et des minéraux. Donc déjà, les macronutriments, si on parle par exemple des glucides, donc le sucre, hein, si on vulgarise un petit peu, sous toutes ses formes, par exemple, que ce soit le sucre blanc qu'on a dans les préparations industrielles, mais aussi tout ce qui est farine blanche, donc tous les glucides qui sont transformés, en fait, hein, les céréales qui sont transformées. Les glucides eux-mêmes, ils vont influencer la santé du cerveau en influençant la glycémie sanguine, donc le taux de sucre sanguin. Et en fait, le fait de se faire des perfusions de sucre en commençant par exemple le matin avec un petit déjeuner sucré, pain, beurre, confiture, là on va influencer énormément la glycémie qui va faire les montagnes russes en fait toute la journée. Parce que derrière une hyperglycémie, on a des sécrétions d'insuline pour faire baisser la glycémie. Le problème, c'est que cette régulation, elle est extrêmement complexe. Et puis on se retrouve avec des fringales, des coups de pompe, de l'irritabilité dans la journée, 2 à 4 heures après ces repas qui sont trop glucidiques notamment.
Alors il faudrait privilégier des petits déjeuners plutôt salés? C'est ça?
Exactement. Alors, c'est vrai qu'en Europe, en Occident particulièrement, on a le gros défaut de se faire un dessert au petit déjeuner avec pain, beurre, confiture.
Oui.
Et c'est vrai que c'est bon. Hein. C'est clair que même pour le moral, de commencer la journée comme ça, surtout si on n'aime pas son boulot, voilà, on se dit, bon, on va utiliser le sucre comme un anesthésiant des émotions. Seulement, on va le payer très cher après sur la journée. Alors, pas seulement au niveau de la santé du cerveau, mais aussi au niveau du poids, au niveau de l'inflammation dans le corps. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le petit déjeuner, il ressemble à n'importe quel autre repas principal. Comme ce matin, par exemple, moi j'ai mangé des pâtes complètes avec de la bolognaise maison que j'avais fait la veille.
Au petit-déj?
Au petit-déjeuner, ouais, à 7h.
Ah, waouh! Mais alors, ouais, c'est une question d'habitude et puis, ouais, de. Comment dire? Je veux dire, ouais, on est. Ici, en Suisse, on a cette habitude-là de manger un. Bah ouais, petit pain, croissant. C'est... Donc il faudrait manger, je sais pas, parce que c'est peut-être presque trop de dire non, des pâtes bolo au petit-déj.
Ah oui, ça c'est pour celui qui est habitué depuis quelques temps.
Hein, on commencerait par quoi?
Alors après, on commencerait par un sandwich plutôt protéiné et salé, donc un peu comme quand on part en pique-nique hein, finalement. Alors après, il faut vérifier quand même les intolérances parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles digestifs avec de l'inflammation dans les intestins et du coup des intolérances alimentaires, par exemple au gluten, mais aussi aux produits laitiers. Donc si là je vous dis, prenez un pain complet de blé avec du fromage, ça va pas le faire. Donc il faut d'abord tester les intolérances et puis après, pourquoi pas celui qui n'a pas d'intolérance, du pain complet avec du fromage et toujours une source de bonne graisse pour le cerveau, c'est important parce que le cerveau c'est un bout de gras, c'est 55% de graisse, donc la qualité des graisses dans le repas, elle va énormément influencer la santé du cerveau et la communication entre les cellules. Donc là par exemple ça serait un demi-avocat, mais après je peux mettre aussi, pourquoi pas du roast beef aussi dans mon sandwich, je peux mettre du jambon blanc de dinde, je peux mettre du saumon aussi, du saumon sauvage. Donc après ça peut être aussi des crêpes au sarrasin, donc des crêpes bretonnes, des blinis, des pancakes pour changer un petit peu aussi du pain.
Puis, alors là en modifiant du coup notre façon de faire petit-déj, on privilégie quoi? Plutôt la concentration, le bien-être, l'énergie en fait dans la journée?
Oui, alors déjà l'énergie et la santé mentale en fait. Donc tous mes patients, quand ils changent leur petit déjeuner, ils disent c'est incroyable, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de morale, j'ai plus de motivation. Parce que le matin, en fait, avec les protéines qu'on met dans le petit déjeuner, on va synthétiser la dopamine, un peu de sérotonine, donc les deux hormones du bien-être. La dopamine notamment, c'est le starter, hein, c'est la clé dans le démarreur. Donc c'est vraiment la dopamine qui vous permet d'avoir de l'élan pour la journée. Si vous n'avez pas assez de dopamine, vous allez traîner la patte en fait le matin, donc vous allez avoir envie d'avoir des boissons stimulantes pour vous réveiller, comme du café par exemple.
Mais la dopamine, elle n'est pas produite justement par les choses qu'on aime. Je veux dire, si moi j'adore manger un petit pain avec de la confiture de fraises de maman le matin, ça va pas justement me développer cette dopamine ?
Alors en fait, quand on mange du sucre, effectivement, en toute petite quantité, ça ouvre les zones du plaisir et de la récompense au niveau du cerveau, et le cerveau sécrète un petit peu de dopamine en lien justement avec la récompense, avec la douceur, mais pas suffisamment pour maintenir le niveau de bien-être sur toute la journée. Par contre, quand on mange des protéines, dans les protéines, en fait, on a un ensemble d'acides aminés, dont la tyrosine, qui permet justement de synthétiser la dopamine en quantité suffisante pour avoir la motivation, l'énergie sur toute la journée. Parce que le but, c'est vraiment la constance. C'est pas seulement d'avoir un pic, puis après, 2 à 4 heures après, on n'a pas le moral, on est irritable, on est nerveux, on a des fringales. Et en fait, du coup, on devient esclave un peu de nos
repas.
Alors, si on prend justement le rôle des graisses, alors on parle des acides gras essentiels comme les oméga-3, effectivement, qui ont un rôle anti-inflammatoire, mais pas que, en fait. Hein. Les acides gras, ils vont permettre aussi de transporter les vitamines, de réparer les tissus. Ils ont un grand rôle à jouer sur le système immunitaire. Donc, les oméga-3, en général, ils rentrent même dans tous les protocoles en micronutrition qu'on conseille pour accompagner les pathologies, parce que les gens n'en mangent pas suffisamment. Là, on va les trouver le plus, c'est dans les poissons gras, saumon, hareng, maquereau, thon, sardine. Alors, un petit bémol pour le thon qui est bourré de métaux lourds. Donc, on l'évite quand même un peu. Mais aussi dans les végétaux, donc notamment dans les graines et les huiles qui sont riches en oméga-3, comme l'huile de noix, de caméline, de chanvre, de lin. Seulement, les oméga-3 qui sont dans les végétaux, ils sont moins bien absorbés que les oméga-3 qui viennent du poisson. Donc, notamment à raison de 20% pour les végétaux et 80% pour le poisson. Donc, tous les gens qui mangent pas assez de poisson gras, ils sont hyper carencés en oméga-3, donc ils vont avoir très souvent des troubles cognitifs, de la mémoire, de la concentration, des troubles de l'humeur, souvent de l'inflammation aussi dans le corps.
Okay, c'est vraiment super intéressant, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Nadège Fontaine, vous êtes, je le rappelle, nutritionniste et thérapeute à Aigle.
Oui.
On fait une petite pause musicale et puis dans un instant on continuera de parler de tout ça, de la neuronutrition. Merci beaucoup.